Bonsoir, ici Autre Radio, Autre Culture. Ce soir, nous abordons un sujet assez particulier, mais qui est dans l'air du temps, c'est sur l'autorité. Alors, en compagnie de Nathalie Costiou, bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
En compagnie de Claude Costiou.
Bonsoir Marion.
Et notre Mélanie Hébert, toujours là.
Bonsoir.
Alors, l'autorité est un très vaste sujet, puisque c'est dans l'air du temps, depuis quelques années. On estime que la France manque d'autorité, que l'on manque d'autorité dans les écoles, dans les universités, au sein même de la politique, dans les partis, au sein même des familles. Et donc, on s'était dit ici que aborder ce thème de l'autorité sous tous ses aspects serait passionnant. Alors, je me suis intéressée justement sur cette définition de l'autorité. Définition que l'on trouve de manière la plus générale possible, qui est dans l'Encyclopédia Universalis. Alors, qu'est-ce que l'autorité pour l'encyclopédie en tant que telle ? C'est le pouvoir d'obtenir sans recours à la contrainte physique un certain comportement de la part de ceux qui lui sont soumis. Alors, je fais un peu un raccourci, puisque c'est très très développé. Et toi, qu'en penses-tu, Mélanie ?
Alors, moi, je prendrais la définition qui a à voir avec celle que tu présentes, qui est celle d'Alexandre Kojève, dans la notion d'autorité. Celui-ci définit ainsi l'autorité. Il n'y a autorité que là où il y a mouvement, changement, action, réel ou du moins possible. On n'a autorité que sur ce qui peut réagir. L'autorité est un phénomène social, une relation. L'autorité n'est pas une chose, n'est pas une substance que l'on détient, que certains possèdent et dont d'autres seraient par cela même privés. C'est la possibilité qu'a un agent d'agir sur les autres, ou sur un autre, sans que ces autres réagissent sur lui, tout en étant capable de le faire. Voilà, bon, je trouve très intéressant ce « tout en étant capable de le faire », c'est-à-dire accepter que quelqu'un fasse autorité et lui reconnaître donc un savoir, un pouvoir, alors tous ces termes ne se recouvrent pas d'ailleurs. Kojève analyse d'ailleurs quatre types d'autorité qui répondent à quatre théories. L'autorité du père qui s'accorde à la théorie théologique, l'autorité du juge dont rend compte la théorie de Platon, celle du chef que théorise Aristote et celle du maître analysée par Hegel à travers le rapport du maître-esclave. Bon, voilà à peu près les grandes lignes de l'autorité dans laquelle s'intéresse Kojève.
Nathalie, qu'en penses-tu ?
Je réfléchis en même temps sur la définition. Le mot autorité est apparu, si je ne me trompe pas, dans la langue française au XIIe siècle. Et dans la grande littérature, encore une fois, si je ne me trompe pas, l'autorité est tout simplement le pouvoir de se faire obéir. Et là-dessus, j'entends très bien la définition qui donne Mélanie d'Alexandre Kojève, que j'aime beaucoup, et ce livre aussi, je la trouve très juste. Et je me pose la question, où dans ce registre-là, on va mettre l'autorité parentale, cette autorité qui ne peut pas être accordée, qui est donnée par définition à l'enfant qui a besoin de l'avoir. Parce que l'enfant a besoin d'obéir pour se faire... Par conséquent, ensuite, l'auteur, même si la racine est différente, mais quand même, la ressemblance de ces deux mots est sensible, pour avoir certaines, je poursuis, autonomie ensuite. Alors, peut-être je vais poser cette question à Mélanie, aussi bien qu'à Claude, qui est pédagogue. Où on place l'autorité parentale ? Quelle est sa valeur ?
Je préférais d'abord là en amont. Et puis dire que l'autorité, c'est un rapport moral par rapport aux individus face aux règles que comporte une société. Elles ont beaucoup évolué, et puis à travers les millénaires et puis les siècles, on en arrive à une autorité aujourd'hui, si on doit la définir, si on peut la définir, elle est en dehors du sacré, elle est en dehors de la famille, de plus en plus, elle est en dehors de l'éducation et elle est de plus en plus dans la singularité de l'individu. Où elle se trouve dans la singularité de l'individu, elle se trouve dans des principes, dans des valeurs d'éducation qui n'appartiennent pas nécessairement à l'éducation, qui n'appartiennent pas nécessairement à la société, mais qui font partie intégrante d'une conscience de l'individu pour des faits très simples, pour le bien, respecter l'autre pour qu'on soit respecté soi? Quelles sont les limites? Comment on ne respecte pas l'autre? Quelle est la liberté de la parole de l'autre? Comment peut-on respecter l'autre sans jamais le heurter? Comment peut-on faire preuve d'autorité lorsqu'on sait qu'on a raison et que malgré tout il y a adversité? Donc le problème est avant tout au niveau de la société. Après, je pense qu'il se rencontre dans toutes les sphères sociales, pédagogiques, familiales. Mais avant tout, il y a un ton à élever par rapport à la manière dont on aborde le 21e siècle aujourd'hui.
Alors moi je voulais, avant d'aborder cette autorité parentale, puisque il y a aussi d'autres aspects à voir, particulièrement en ce moment, ce qui nous préoccupe quand même très fortement, c'est au niveau de l'autorité du pouvoir et du gouvernement en place. En fait, cette autorité politique. Bruno Robez, qui a donné un avis un peu particulier, il a donné trois types d'autorité, qui est l'autorité autoritariste, l'autorité évacuée et l'autorité éducative. Déjà dans le premier terme, autorité autoritariste, il voit essentiellement les actes du pouvoir, du gouvernement en place. J'étais un peu choquée de cette confrontation de autorité et autoritarisme, puisque l'autorité n'est pas systématiquement l'autoritarisme.
Bien sûr, puisque autoritarisme, moi, m'ferait plus penser à pouvoir. Et pouvoir et autorité, ça n'a pas grand-chose à voir. Je dirais même que quand il y a trop de pouvoir, il n'y a pas d'autorité. Ou quand il y a de l'autorité, il n'y a pas besoin de pouvoir. Donc ce ne sont pas des deux termes qui se recoupent, qui coïncident. Donc, et autoritarisme, moi, me fait penser à plutôt pouvoir, pouvoir sans autorité.
En fait, moi, je me suis amusée à rechercher ce qu'est l'autoritarisme par rapport à l'autorité. Et l'autoritarisme, en fait, au niveau gouvernemental, au niveau d'un pouvoir politique, c'est la tendance d'une personne à abuser de son autorité, à l'exercer avec rigueur, à chercher à l'imposer. En fait, c'est un terme qui est très voisin de tyrannie, dictature, despotisme ou de l'autocratie, qui sont en fait des formes de pouvoir où l'on exerce un autoritarisme absolu sur les gens.
Qui prédispose à l'existence des adeptes. Parce que étymologiquement, comme chaque mot qui se termine par « isme », contrairement à l'autorité qui peut exister toute seule, un « isme », c'est un rassemblement de qualités susceptibles à satisfaire l'exigence de cette même autorité. C'est-à-dire, à l'intérieur de l'autoritarisme, il est obligé d'en avoir des adeptes qui ont adhéré à cette autorité. Ça veut dire que l'autoritarisme étymologiquement ne pourrait pas exister sans autorité, tandis que l'autorité, par définition, n'a aucun besoin d'autoritarisme.
Alors ensuite, il aborde ce qu'est l'autorité évacuée, et là, on rejoint ton autorité parentale, Nathalie. Pour lui, l'autorité évacuée vient avec la fin du modèle patriarcal de l'autorité dans les années 60, en fait, qu'on voit apparaître. Donc, c'est une évacuation des contraintes sociales qui a rompu tout à fait le consensus social existant. Une revendication, c'est ce que disait Claude, individualiste. On est seul, on est l'homme, on est l'être humain et on a ce que l'on pense fait autorité. À votre avis ?
L'autorité parentale est déjà là quand l'enfant est né, quand le petit bébé est né. Si elle ne s'exerce pas, la demande va dans le vide et provoque parfois des conséquences psychiques et psychologiques graves.
Mais c'est pas ce qui s'est passé cet an dernier ?
Peut-être.
La dérive de l'éducation, finalement, ce n'est pas ça ?
Je ne pense pas qu'on peut aborder le sujet sur n'importe quelle autorité sans préalablement aborder le sujet de l'autorité parentale, parce que c'est notre modèle de l'autorité originelle. Et c'est à ce modèle-là qu'on se réfère quand on s'imagine l'autorité quelconque, l'autorité de notre professeur, de notre gouverneur, de notre référent scientifique, de notre maître. C'est le premier exemple de l'autorité, de notre obéissance, soumission, respect, selon la paradigme épistémologique de chacun, de la psychologie de chacun. Mais cette autorité parentale est complètement individuelle pour chaque personne, elle est irremplaçable. Et alors notre référence future à l'autorité sociale va toujours avoir le lien avec cette autorité-là. Donc c'est là-dessus que nous sommes obligés, on ne peut pas contourner cette question, nous sommes obligés à se questionner. quelle est cette image de l'autorité du père, de l'autorité paternelle, qui est d'ailleurs en termes de dictionnaire aussi, de l'encyclopédie, l'autorité paternelle, et comment elle s'exerce à nos jours?
Moi, je pense que pour l'autorité du père, c'est la précédence du passé qui leste l'autorité que le père exerce dans le présent. C'est-à-dire que ça renvoie aux ancêtres et à quelque chose à transmettre, donc à la transmission. Et l'autorité se fonde sur la transmission du père à ses enfants, du père, enfin de l'autorité parentale, puisque maintenant il y a cette autorité parentale et plus autorité du père, ce qui est d'ailleurs pas sans poser des questions quant à l'éducation et la transmission, justement, cette espèce de partage de l'autorité entre le père et la mère fait tout à fait question pour un certain nombre de psychanalystes, par exemple.
Je pense que l'autorité, enfin, au niveau du père, c'est l'absence du père, pour continuer, par exemple, dans la direction d'Annie, et que le sublime, enfin, de l'autorité, c'est la non-directivité totale. Que ça soit chez l'enfant, par exemple, c'est les doctrines, par exemple, de la non-directivité, chez Carl Rogers pour l'école américaine, chez Piaget pour l'école française et pour l'école suisse, enfin, de l'épistémologie et puis de la psychologie génétique. C'est-à-dire qu'il y a des processus d'assimilation et puis d'accommodation de l'enfant qui n'apprend pas justement par autorité, surtout pas par autorité, car il n'apprend rien, mais qui apprend que par lui-même.
J'aimerais ajouter, pas dans la contradiction, que l'autorité, peut-être, je me répète, n'est pas quelque chose qui s'impose au petit enfant. Il est attendu, il est bien demandé par lui-même.
Dans cette autorité, hein, toujours parentale dont on parle, elle vient de plus loin que celui qui l'exerce. C'est toujours cette question du temps. C'est le temps qui est en position de tiers. Mais on peut voir aussi qu'il n'y a pas que l'autorité qui vient du passé. Si le temps fait autorité à partir du passé, on peut aussi penser que des jeunes, par exemple, tirent leur autorité du fait qu'ils ont un futur, parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils ont un avenir. C'est à partir de là que les jeunes générations peuvent se prévaloir de faire autorité. Et puis par rapport au temps aussi, on peut penser que l'autorité, il y a une autorité du présent, qui est aussi perceptible d'une autre manière. C'est la prégnance de l'actuel, de l'aujourd'hui et maintenant, qui ne peut pas être déniée dans ce qui fait autorité. C'est-à-dire qu'on retrouve les trois registres du temps. Pour l'autorité parentale, c'est effectivement le passé, mais les jeunes ont aussi de l'autorité, et puis le présent.
Ce qui me vient à l'esprit, là, par hasard, c'est un exemple de l'autorité, on peut dire, de l'éducation, dans certaines cultures japonaises qui n'existent peut-être plus, ou qui sont de toute façon à nos jours largement diminuées, qui consistait en un système éducatif des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. Les parents permettaient à leurs enfants de faire absolument tout ce que les enfants voulaient, tout ce qui leur venait à l'esprit, sans aucun contraint, sans aucune contradiction, et même sans commentaire. C'était considéré comme l'intrusion dans le monde d'enfants, qui n'est pas faux, on le sait très bien que jusqu'à l'âge de 6-7 ans, le monde d'enfants est en quelque sorte complètement hermétique pour un adulte. Et à partir de l'âge de 7 ans, l'éducation très forte et extrêmement rigoureuse commençait. La société japonaise telle qu'on le connaît durant quelques dernières décennies, c'est une société étrange, hein, de point de vue névrotisme social.
De toute façon, je ne sais pas si c'est aussi un bon exemple d'éducation, puisque quand même le Japon, un des plus forts taux de suicide chez les jeunes adultes, hein, surtout. Donc ça veut bien dire qu'il y a un contraste qui est énorme entre ce qui se passe avant 7 ans et la pression qu'ils vont avoir après 7 ans. Visiblement, beaucoup ne sont pas capables de l'assumer.
Tout à fait. Et peut-être je contredis un petit peu l'exemple de Claude, mais et peut-être c'est une autre extrémité de ce que tu viens de dire. Mais en tout cas, l'absence de l'autorité peut quand même conduire à des conséquences dangereuses.
Il y a deux faits. Il y a d'abord le fait qu'on laisse l'enfant jusqu'à 7 ans, donc livré, comment dire, à ses jugements, et puis le fait qu'ensuite, on lui fasse une éducation qui soit très importante et puis fait de beaucoup de rigidité due justement à la société japonaise. Le suicide, je pense qu'il fait partie de la deuxième condition, mais pas de la première, où l'enfant accumule l'imagination, ses expériences, ses assimilations, et que c'est au niveau des règles qu'on leur apprend dans leur seconde partie. Je pense qu'il y a une relation entre la tradition japonaise et puis cette condition qui est beaucoup plus de la religion, mais qui a été mal assimilée par une société qui est devenue très industrialiste.
Toujours pour en revenir à Bruno Rome, dans cette autorité évacuée, il dit que en fait, l'individu en Europe, ou surtout en France, s'est érigé de manière tellement souveraine qu'il est finalement devenu la cellule de base. Et que cela projette, par exemple, dans ses désirs, et il veut que ses désirs soient accomplis tout de suite. On parlait de pouvoir d'achat tout à l'heure. En fait, le pouvoir d'achat, ça serait pour l'homme actuellement le fait de ne plus pouvoir acheter les besoins qu'il a tout de suite, même des besoins complètement élémentaires, hein, genre acheter une télévision et autres. Ce sont des choses qu'il ne pourrait plus assumer actuellement.
Alors c'est l'achat qui tient le pouvoir.
C'est l'achat qui tient le pouvoir, exactement. En fait, on arrive à ce que l'achat a autorité sur le pouvoir.
Moi, je suis assez d'accord avec ça. L'achat devient un objet. L'action d'achat commence à avoir la caractéristique individuelle, objectale, avec laquelle le sujet s'associe. Oui, je suis d'accord avec ça.
C'est une condition triste. Ça renvoie, je pense, à l'insupportable du manque actuel. On ne supporte pas de manquer. Et on se fabrique des manques possibles.
C'est-à-dire, on est dans la perpétuation de la perte. Parce que le comble de la manque engendre la perte conséquente. Et c'est un cercle vicieux.
Alors Bruno Rome, toujours le même, moi j'ai trouvé intéressant ce qu'il disait. J'étais pas toujours d'accord avec lui. Mais il dit quand même que n'étant plus prêt à subir des contraintes qui entravent son libre choix, l'homme actuel, qui n'a pas subi donc cette autorité en tant que tel, va s'ériger en poseur de normes. Pour lui, les enfants, chaque enfant a sa norme, donc ce n'est pas la peine de lui interdire quoi que ce soit. Il suit ses propres normes.
Oui, mais si chaque enfant a sa norme, il n'y a pas de norme. Donc il y a, dans le dire même, un paradoxe.
Oui, et lui pose le problème, il dit que c'est le mal actuel en ce moment, c'est que les parents ayant laissé les enfants suivre chacun sa norme, il n'y a plus de normes et les enfants n'ont plus cette autorité qui pouvait les diriger vers quelque chose pour s'élever finalement, pour s'améliorer, pour grandir.
Encore une fois, je pense que la norme, c'est quelque chose qui est propre aux parents. L'enfant n'a pas de base pour construire sa norme. Il a l'imagination, il a des fantasmes.
À l'école, si, il y a des normes. Il y a, les enfants, c'est, ils veulent être comme les autres.
Parce que plus tard, je parlais d'un tout petit enfant.
Ah oui, parce que très très vite, les enfants veulent être comme les autres.
Ou ne veulent pas être comme les autres.
C'est plutôt être comme.
C'est plutôt, malheureusement, c'est de plus en plus.
Appartenir au groupe. Oui. Ça me rappelle l'histoire d'un enfant blond qui était au Portugal. Et quand on lui disait, tu es un joli petit blond, il disait pas du tout, je suis pas blond, je suis brun. Parce que tous les autres étaient bruns et qu'il était insupportable pour lui d'être blond.
Ou par exemple, ce mot qu'on ne supporte plus, je pense que nous tous, autour de cette table, les marques, ce que les enfants demandent, les marques. En fait, ils demandent d'être marqués, avoir la marque de quelqu'un d'autre sur soi qui va l'identifier avec des milliers d'autres personnes qui portent
la même marque. Là aussi, c'est paradoxal, parce qu'il veut être marqué comme les autres sont marqués. Ouais. Donc chacun avec des marques différentes, mais tout le monde est marqué.
Tout à fait.
Donc il y a quelque chose d'assez intéressant, je trouve, dans cette demande des enfants.
Qui parvient aussi paradoxalement de culte d'individualisation, après tout. Mmh. Mais c'est une individualisation généralisée, aussi bizarre que ça puisse s'entendre.
Un peu comme si l'enfance était la réduction de l'adulte en tant que sujet désirant, c'est-à-dire singulier dès l'enfance. Il se revendique singulier de l'enfance dans la marque et en même temps comme les autres enfants. Enfin, il y a ces doubles aspects, mais d'une manière qui tente à faire autorité pour les parents. Enfin, je veux dire que les parents suivent dans la mesure où sinon il y a une souffrance.
Je peux donner un exemple pratique que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, pendant une fête organisée pour des petits-enfants de 6-7 ans, où il y a un petit garçon de 6 ans qui a répondu à l'ami de son père, c'est-à-dire à quelqu'un qu'il connaît très bien et normalement qui est le même âge que son père, à la demande de ne pas entrer dans une pièce qui était sans doute interdite pour les raisons propres à cet ami-là. Et l'enfant, le garçon de 6 ans, a dit « Et si je veux, je vais le faire ». L'homme a dit « Mais je te l'interdis ». « Qui êtes-vous pour me l'interdire ?»« Je suis une grande personne, » a répondu l'homme. « Et moi, je suis une petite. » Et alors, une petite, l'homme a dit « Je suis une grande personne. » Et le garçon a dit « Moi, je suis une petite. » Parce que la personne, pour lui, c'est quelque chose de sous-jacent. Et ce n'est pas la peine de préciser cette contradiction entre la grande et petite. Et je pense que ce phénomène, en tout cas, selon mes observations, est nouveau. Pendant les 10 dernières années, je pense que les générations actuelles des petits-enfants ont fait un pas énorme vers ce que je ne saurais pas définir, en tout cas ce soir. Mais si on avait les mêmes critères de comparaison entre la génération de ceux qui ont maintenant 35 et 50 et 60 ans, on avait quand même de même critères de comparaison, je ne pense pas qu'on pourra plus tard comparer ainsi nos enfants et nous, les enfants qui sont petits.
Qui ont 5-6 ans actuellement.
Et la structure mentale enfin, du petit enfant, de toute façon, est vierge, est complètement différente de la structure mentale de l'adulte. Et c'est l'adulte qui en parle. L'enfant est incapable d'en parler ou en parle lorsqu'il est adulte et lorsque justement son changement de structure mentale est différent. Dans la pédagogie, pour apprendre, le maître, dans les dialectiques dont parlait Mélanie tout à l'heure, de Hegel, du maître à esclave, il faut distribuer un savoir. Comment distribuer un savoir en face d'enfants, de jeunes, d'adolescents qui refusent ce savoir non pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais parce qu'ils ont d'autres domaines d'activité. Alors, il y a d'abord la dialectique du maître. Le maître, à mon avis, dans son autorité, sa seule possibilité, c'est d'être bien dans sa personnalité. C'est-à-dire qu'il ne joue pas un jeu, il est avec lui-même la connaissance, en harmonie avec la connaissance. Ensuite, il va à la rencontre de l'autre, c'est-à-dire celle de l'adolescent. Il y a, non pas des normes, une morale à respecter, une éducation civique à poursuivre, des choses à apprendre au niveau du respect. Non, il y a une approche, petit à petit, de savoir être ensemble, de pouvoir communiquer et de, pour le maître, de communiquer un savoir dans l'amour. Il est possible, quelquefois il est impossible, mais de toute façon, si on essaie simplement de le transmettre d'une manière autoritaire, ça ne marche pas.
Oui, mais là encore, Claude, c'est le transmettre de manière autoritaire. S'il y a autorité, il n'y a pas à être autoritaire. Tu vois, c'est là qu'il est bien compliqué de s'entendre sur le terme autorité même, parce que l'autoritaire n'a pas à voir avec l'autorité. L'autoritaire, c'est l'absence d'autorité.
Oui, tout à fait.
Je suis d'accord.
L'autorité, c'est justement être bien avec soi-même.
Oui.
Parce que c'est le seul modèle qui est possible. Parce qu'il y a identification avec la personne qui représente cette image de maître, mais derrière, une image de savoir qui devient intéressant rien que par la relation. Et donc à ce moment-là, on peut sortir de l'autorité et avoir une captation, moi, que je peux appeler d'amour ou simplement de contact, à vouloir connaître quelqu'un d'autre et qui est justement en dehors de l'autorité classique, telle qu'on peut l'apercevoir comme norme sociale ou norme sacrée.
Sortir de l'autorité pour devenir auteur.
Oui.
Pourtant, là où on parle de professeurs, d'éducateurs, on s'aperçoit quand même que beaucoup de professeurs et d'éducateurs n'osent pas dire non et n'osent pas avoir une relation d'adulte à adolescent ou enfant. Ils veulent être le copain, celui qui comprend ce que dit l'autre, et ils essayent de se mettre au niveau de l'enfant. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ce que veut l'enfant. Il cherche quand même une autorité.
Bien sûr que ce n'est pas ce qu'il veut, l'enfant.
Oui, ce n'est pas ce qu'il veut, c'est certainement pas ce qu'il veut. Il se sent complètement perdu dans ces conditions. Il n'a plus de repères, il n'a plus de référents. Et d'ailleurs, je peux vous donner un autre exemple international, encore une fois, de société israélienne moderne, et pas depuis quelques dizaines d'années. Ce qui se passe en Israël avec les gens qui ont les juifs qui ont fait l'Aliya, c'est-à-dire qui ont monté, comme on dit, on est bon en Israël, venant de tous les pays du monde. Normalement, les enfants apprennent les langues très vite. On le sait très bien, c'est naturel. Les parents, beaucoup moins vite. Les grands-parents, c'est un exercice presque impossible de temps en temps. Alors, qu'est-ce que nous avons comme situation après une année d'arrivée en Israël ? Les enfants parlent hébreu couramment et ils sont agacés par l'accent et par les fautes qu'ils font leurs parents. Et c'est les enfants qui commencent à apprendre leur langue maternelle, parce que c'est ainsi que l'hébreu est appelé en Israël, c'est la langue maternelle pour tous les Israéliens. Et c'est les enfants qui commencent à apprendre la langue maternelle à leurs parents. C'est un exemple très singulier, je trouve. Je pense qu'il y a un seul pays au monde qui existe avec telle situation. Et cette autorité, on peut renverser, montre... À mon avis, un certain décalage entre les générations qui persistent dans la société israélienne contemporaine, sans vouloir le critiquer. C'est juste une observation.
Dans la pédagogie, enfin, on peut voir par exemple, moi chez mes jeunes élèves maghrébins, enfin, qui viennent traduire leur maman. Hein, tout simplement, parce que...
Oui,
et donc, il y a une entière confiance, enfin, comment dire, de l'adolescent, enfin, du fils, qui traduit, par exemple, ce que dit le professeur à sa maman, parce qu'il est l'unique traducteur, et la maman ne parle absolument pas français, ou un tout petit peu. Donc, il l'instruit de son français.
Je ne pense pas que ce soit la même situation, parce que les juifs, au fond, rentrent chez... Un juif rentre chez soi quand il monte en Israël. C'est pas exactement la même chose.
Oui, mais c'est pas pour autant que l'hébreu sera la langue maternelle. C'est pas parce qu'il rentre chez soi que l'hébreu sera jamais la langue maternelle pour le grand-père, par exemple. Même si, affectivement, c'est la langue maternelle. C'est pas...
Tout à fait.
Hein, c'est pas la langue maternelle. La langue maternelle, il y en a plein de définitions extrêmement différentes les unes des autres, mais une des définitions, c'est par exemple la langue dans laquelle on rêve.
Oui. Et la langue qui nous a été interdite à un moment donné.
Annie, oui. J'ai des moments où je rêve en allemand, c'est pas pour ça que... J'ai le sentiment d'avoir...
Peut-être.
Ou la langue sur laquelle on compte. Ça peut être ça aussi, point de vue technique. On compte les chiffres, les nombres.
Chiffres.
Les chiffres. Mais, ça peut être ça, la langue maternelle.
Mais d'abord, je voulais d'abord revenir quand même sur une idée reçue, parce que je pense qu'il en existe quand même beaucoup dans l'éducation. Et quels que soient les partis politiques, et je pense que les professionnels doivent faire résonner des choses assez fortes qui sont quand même incompréhensibles par, malheureusement, peut-être par notre manque d'informations ou par peut-être un désintéressement ou alors des revendications qui sont très fortes sur l'éducation, ce qui me paraît d'ailleurs une bonne chose. En beaucoup d'années de carrière, je vais pas dire combien, moi je ne connais pas de professeurs qui veulent ressembler aux adolescents, Marion.
Il y en a quand même pas mal.
Mais moi, j'en connais pas.
J'en connais, moi, plein.
À travers toute ma carrière.
Ouais. Mais peut-être parce que tu es dans une branche un peu différente.
Alors, ça doit être une branche solide, quand même. Hein.
Je pense que Mélanie va être d'accord avec moi qu'on rencontre souvent les parents qui, n'ayant pas eu la possibilité de dépasser leur propre enfance, ont la concurrence psychologique avec leurs enfants dans le domaine d'enfance.
Oui.
Ça, oui.
C'est ce dont parlait Marion, là, je pense, cette concurrence. Donc, cette mise sur le même niveau.
Sur le même niveau.
Ouais.
Et ce qu'avaient observé quand même pas mal de sociologues, c'était qu'il y avait quand même beaucoup de professeurs, quoi que tu en dises, qui refusaient d'exercer l'autorité à la fois éducative et répressive. Donc, je veux bien éduquer, mais je ne veux pas...
Enseigner plutôt. Je veux bien enseigner.
Je veux bien enseigner, mais je ne veux rien faire d'autre.
Pas éduquer, oui.
On arrive par moments à des énormes problèmes dans certains collèges. Il y a des professeurs qui se font quand même blackbouler de manière invraisemblable.
C'est du discours, Marion. C'est impossible au niveau de la réalité. C'est des personnes qui se lamentent, Marion. Ça n'existe pas. C'est impossible si tu n'as pas, une force de répression à pouvoir faire passer du savoir. Donc pour moi, ce sont des
mots.
Donc ce sont des mots.
Cet
enseignant ne peut pas dire qu'il essaie de faire passer du savoir si derrière il n'a pas, un minimum de répression envers l'élève pour pouvoir le faire passer.
On a deux exemples.
C'est un abandon de leur part.
Il y a des abandons total.
Oui, c'est ça.
Il y a un abandon total. Et tu as aussi, il y a l'exemple qu'on a vu hier, le genre de professeur qui a un auto-autoritarisme sur ses élèves sans faire passer l'enseignement. C'est-à-dire qu'il arrive avec une classe de 30 gamins, moi je dirais plutôt de jeunes adultes, hein. Ce sont des jeunes qui sont en BEP, qui ont 18 ans, et qui ne suivent pas, qui ont la moyenne générale est de 2. On demande au professeur des corrections de devoirs qu'on n'arrive pas à avoir depuis 6 mois. Donc il y a des élèves qui s'insurgent, mais c'est eux qui sont, ils sont punis, parce qu'il y a un excès d'autoritarisme. Il ne veut pas.
Oui, la problématique dans ces cas-là, c'est qu'est-ce que fait l'institution pour pouvoir mettre de côté ou former ou s'inquiéter de ce professeur-là? Ça, c'est une vraie question. Comment peut-on, dans une institution scolaire chargée d'enseigner, continuer à soutenir un professeur comme cela sans se poser des questions? Ça, c'est pour moi inquiétant. Mais je veux dire, c'est inquiétant pas seulement dans l'enseignement. Je pensais aussi que c'est inquiétant peut-être dans les médias, c'est-à-dire comment les institutions, ce sont les institutions qui sont malades, elles ne font plus leur rôle. Leur rôle qui est de voir qu'est-ce qui dysfonctionne, où est-ce que les gens de cette institution ne remplissent pas leur rôle, ne font pas leur travail, et comment les aider ? Comment les mettre de côté, ou comment les interroger, ou comment les soutenir, ou comment je ne sais quoi. Il y a une carence institutionnelle actuellement dans plein d'institutions, me semble-t-il.
Je serais beaucoup moins sévère que Mélanie, mais pas pour défendre tous mes collègues, je n'ai à défendre personne. La cause n'a pas à être défendue d'ailleurs, parce que je pense que l'éducation en France est bonne.
Il y a quand même une baisse de l'éducation et du niveau des élèves
par rapport
au niveau européen dans les examens qu'on voit.
Non.
Il y a surtout une baisse par rapport au niveau français il y a 20 ans. Et il y a encore beaucoup plus forte baisse par rapport au niveau français il y a 70 ans.
Et puis,
ce que l'enfant de 6 ans était capable de lire et d'écrire et d'analyser il y a 70 ans, l'enfant de CM2 n'est presque pas capable de faire maintenant.
Parce que quand on voit, par exemple, notre ministre de l'Éducation qui demande que à la fin du CM2, les enfants soient capables de pouvoir diviser. Enfin, là, on parle de l'éducation, on dérive un peu, mais je pense aussi que c'est un problème d'autorité au sein des classes. Quand on arrive à ce que les enfants ne sachent pas diviser et passent en sixième, qui ont du mal à lire, qui ont du mal à diviser, qui arrivent péniblement à savoir la multiplication ou la soustraction, et qu'alors la règle de 3, n'en parlons pas, qu'on a quand même un problème.
Moi, je me demandais si cela pouvait être ramené à quelque chose d'une déficience de l'ordre symbolique, par rapport, par exemple, à l'imaginaire. C'est-à-dire, quelle place au symbolique, maintenant, par rapport à l'imaginaire, la télévision, et enfin tout ce
mais
qui est...
Mais il y a moins d'imagination chez les enfants.
La représentation, oui, mais la place de l'imaginaire.
Non.
Je ne pense pas qu'il peut en avoir, moi. Je pense que l'imagination ne peut pas être réduite par définition. Elle est comme elle est. Il n'y a rien qui puisse l'influencer vers la diminution, à mon avis.
Je crois que les jeunes sont très différents. Et je pense que nous, adultes, là, on en parle mal. Et peut-être que moi, je suis assez bien placé, mais je ne suis pas objectif pour penser que les jeunes apprennent autrement, qu'ils savent d'autres choses que nous. Alors, on va parler de règles de 3, on va parler de coefficients multiplicateurs, on va parler d'orthographe, mais ils manipulent d'autres cultures, ils manipulent des moyens d'information qui sont exceptionnels et que nous, adultes, on n'est pas capable de comprendre. On va vers une société dans laquelle c'est eux qui vont évoluer et pas nous.
Voilà. Je ne suis pas d'accord. Je veux dire, si c'est parce qu'il y a l'ordinateur ou le téléphone, etc., je suis désolée. Moi, je suis, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 13 ans, j'ai pas 10 ans. Et ça fait quand même 15 ans ou 20 ans que je suis devant un ordinateur. Donc, moi, j'ai été éduquée à partir de la fac à avoir des ordinateurs. Donc, pour moi, depuis la deuxième année de fac, je suis dans l'informatique. Depuis les années 80, je suis dans l'informatique. Donc, pour moi, ça n'a pas de valeur, ça. Ce n'est pas parce qu'il sait servir d'un ordinateur qu'il saura plus. C'est pas vrai, ça.
Et par contre, pour eux, c'est la manière d'exercer leur autorité sur les adultes, de plus en plus.
Oui, c'est, là,
savoir
je suis d'accord.
Faire des choses, voilà. Et voilà. C'est ça que je trouve surtout inquiétant.
Ils rentreront dans des jeux virtuels, par exemple. Alors, je vais dépasser l'informatique dans des jeux virtuels, par exemple, dans des jeux de rôle, avec l'informatique, avec des images 3D, des images. Un peu, enfin, avec des animations enfin, qui sont absolument exceptionnelles, dont aucun de nous quatre aujourd'hui ne serait capable de rentrer.
Excuse-moi, je joue tous les jours. Je suis quelqu'un qui joue tous les jours depuis l'âge de 18 ans. Voilà.
Il y a autre
chose. Je suis dans mes mondes virtuels, je suis dans mes jeux, que ce soit en 3D, des choses de simulation. Je peux discuter avec des gamins de 15 ans de jeux, je sais ce que c'est.
Oui,
mais pour ça, j'ai peut-être une autorité sur eux à ce niveau-là.
Alors,
effectivement.
Alors, Marion,
c'est peut-être
il y a
l'ordinateur
des...
qui a l'autorité oui. sur nous.
Ou
tous,
c'est peut-être l'ordinateur.
Mais il y a des relais. Moi, j'en serais incapable. Ce que dit Marion, j'en serais incapable. Je prends un jeu Nintendo avec les touches, etc. Je ne comprends rien à aucune touche. Et un enfant de 5 ans, lui, doit m'apprendre à manipuler les touches, etc. Et j'en suis incapable. Par contre, je vais lire tous les jours, etc. Mais par exemple, même au niveau des savoir-faire, il y a des jeunes qui ont des savoir-faire que je ne possède absolument pas et pour lesquels, enfin, moi, je suis assez admiratif par, justement, leur culture et quelquefois même par leur fainéantise. Moi, j'ai un exemple, par exemple, de professeur qui me dit, pour apprendre l'organisation du travail, moi, je leur apprends à être fainéant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est quand même un peu brutal hein, comme
non,
expression.
Moi, j'ai toujours entendu ça. J'ai toujours entendu ça qu'un fainéant, parce qu'il est fainéant, va avoir justement une production pas plus importante, mais plus calculée. Je veux dire,
voilà.
Il va mieux gérer son
voilà.
temps.
Tout à fait.
Et que la fainéantie, c'est quelque chose de positif vis-à-vis du jeune actuellement, qui est tellement critiqué, par exemple pour sa fainéantise.
C'est-à-dire que le problème oui. c'est de savoir s'il produit quelque chose. Parce qu'être fainéant et ne rien produire, ça c'est aussi un problème.
Ah ben il va réfléchir, hein. Au lieu d'aller chercher un œuf, après une cuillère, après un autre appareil, après, si on l'apprend vraiment à être fainéant, il va le faire en une minute, et il aura fini son opération, par exemple culinaire, s'il s'agit d'un lycée hôtelier, en étant justement fainéant, donc en calculant ses gestes, et d'une manière qui n'est pas du tout autoritaire, mais simplement en lui disant quelque chose de, qui est positif pour lui, être fainéant, parce qu'ensuite il va s'occuper d'autre chose, et c'est une manière de pédagogie qui est positive, mais difficilement compréhensible par la majorité.
Moi je vais donner un exemple, parce que ça m'avait beaucoup amusé. Il y avait une réunion à un moment au niveau politique des instances gouvernementales, et il y avait quelqu'un qui donnait un exemple en disant « Oh, les jeunes, c'est quelque chose. Les garçons, c'était extraordinaire. Autrefois, ce qu'un garçon pouvait faire, il faisait une action par action. » Maintenant, il arrive à faire deux actions en même temps. Alors moi, je l'ai regardé souriant, et puis je lui dis « c'est que le garçon se féminise ». Il me dit « Comment ça ?» Je lui dis « Mais le fait de faire trois ou quatre choses en même temps, les femmes le font depuis la nuit des temps ». Et je lui dis « Ce n'est pas parce qu'il peut jouer et regarder la télévision ». Je lui dis « Moi aussi, je suis capable de le faire. Je peux jouer, regarder la télévision et chatter en même temps et alors regarder mon courrier ». C'est pas typique des jeunes actuellement. C'est ceux qui sont restés toujours dans le mouvement en avant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et il est vrai que ce qui me permet, moi, parce que je donne pas des cours, mais j'ai des cours avec des jeunes le soir, ce qui me permet d'avoir une autorité sur eux, parce que je sais exactement qu'est-ce qu'ils écoutent, avec quoi ils jouent, et je sais m'en servir.
Ah, ça c'est très important.
Voilà, oui. Et pour eux ça c'est très important.
Bon, et puis il ne faut pas oublier par exemple, j'étais inscrit l'année dernière à la bibliothèque de Sancier de Menton, et puis à la bibliothèque je me rendais régulièrement pour consulter les ouvrages, etc. Et puis il m'est arrivé d'avoir des discussions avec des jeunes étudiants. Et un jour je me suis assis sur un banc avec mon âge, beaucoup plus avancé que ces étudiants, et je lisais fragments d'un discours amoureux de Barthès. Bon. Et puis, étudiante curieuse quand même de voir quelqu'un de plus âgé, pas prof, lire sur les fragments, etc. Et puis je lui dis, mais en fait ce qui m'intéresse, parce qu'elle m'interrogeait hein, vraiment, pourquoi les fragments de Barthès? Déjà l'intéressement est quand même curieux lorsqu'on critique les jeunes, lorsqu'on dit que... Parce que là j'en viens à l'actualité, hein. Là on en venait à la fainéantise, etc. Et je lui dis, mais en fait, parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'étudier les fragments. Pourquoi les fragments, le fragment et le tout, hein, chaque partie est un tout, et c'est sortir un petit peu enfin, du constructivisme. Et elle m'a bâti un discours, enfin comment dire, sur le, justement, enfin, sur le constructivisme et puis sur la manière dont tous les auteurs après ont conçu, avec Baudrillard par exemple, ce fragment formant un tout. Et... Mais ce qui lui semblait extraordinaire, c'est qu'un adulte puisse avoir une idée comme celle-là, alors que pour elle c'était naturel.
Elle avait quel âge ?
20 ans.
Et pour moi, c'est une jeune adulte.
Et moi 50.
Non, mais pour moi, c'est
non,
déjà...
On parlait bien de la même chose. Vous voyez, il n'y a pas de différence de...
Non, mais exactement ce dont on a parlé, que la génération, par exemple, de ceux qui ont 50 ans et qui ont 20 ans, ces générations-là sont beaucoup plus proches que, par exemple, de ceux qui ont 30 ans et qui ont 5 ans actuellement. Mm-hmm. C'est ces générations-là qui vont avoir, à mon avis, la problématique tout autre dans quelques années. Parce que, par exemple, quand j'ai écouté Claude, qui est un adepte fidèle de Piaget, comme on le sait très bien, et Mélanie, à propos de l'imaginaire et les valeurs de symbolique à côté, et ce qui me vient à l'esprit, c'est l'invention très contemporaine qui s'appelle Facebook, où il n'y a que l'imaginaire, parce que le symbole, c'est celui qui écrit. C'est-à-dire, sur le Facebook, on communique avec l'imaginaire, avec son imaginaire, et avec l'imaginaire de toute autre personne qui peut-être n'existe même pas. Peut-être c'est une personne d'un autre sexe, ou d'un autre âge.
Tout à fait, de notre âge, oui.
Oui, c'est complètement inventé. Mm-hmm. Et je pense que c'est un autre type d'autorité qu'on exerce dans l'ombre, dans l'obscurité, qu'on s'exerce à exercer, qu'on s'entraîne à exercer sur les autres personnes dans son imaginaire, à partir uniquement de son imaginaire. Parce qu'il n'y a aucun symbole qui confirme ce qu'on dit. Il n'y a aucune confirmation possible de ce qu'on raconte sur soi-même. Sur ce Facebook.
C'est amusant que tu parles de cela, parce que ça me fait penser par exemple à des chats sur Internet où on ne se voit pas, on s'écrit. Et c'est amusant de voir comment les gens imaginent que l'autre a autorité sur lui, ne serait-ce que par la manière de poser les points d'exclamation, ou les points d'interrogation, voilà. Ou la façon d'écrire en gras. Et certains ont l'habitude de, parce qu'ils sont beaucoup plus... exclamatifs dans leur manière d'être, donc plus enjoués, donc ils vont mettre des points d'exclamation partout. Et les autres vont penser que c'est une autorité, une espèce d'autoritarisme même, qu'il essaye d'agir sur eux. Et c'est très très mal perçu.
Tout à fait, ce que peut joindre le discours de Claude quant à l'autorité de professeur, parce qu'il y a plusieurs manières de l'exercer, cette autorité. À l'école, c'est un autre discours parce qu'il y a une note. C'est une certaine manière quand même de voir si le professeur enseigne bien, si sa manière d'exercer son métier passe bien. Hein. Ce n'est pas une mesure incontestable, je ne le dirais pas, parce qu'on peut bien parler hein, ce que c'est la note et, à qui et dans quelle mesure on peut la mettre. Mais il y a d'autres établissements et d'autres organisations sociales, dont les politiques par exemple, dont d'autres institutions, où l'autorité peut s'exercer en s'appuyant sur le démon d'amour, tout simplement. Et sans aucune note, sans aucun critère, ni caractéristique autre que ça.
Bon, sur la pédagogie, enfin, sur l'éducation, si par exemple demain, moi j'ai l'objectif de faire augmenter mes élèves de 2 points par rapport à l'année précédente, bon avec 30 ans d'expérience, hein, je les fais augmenter de 3 points, si on me le demande. Hein. Mais résultat, au niveau de ce que je leur ai appris, enfin au niveau acquis, d'intelligence, d'assimilation, d'accommodation, etc., rien. Mais je peux vous assurer que j'aurais fait gagner les 3 points. Hein. Il y a beaucoup d'écoles qui travaillent comme ça, etc., ils ont leur diplôme avec 3 points. Et l'année prochaine, on va me demander 2 points en plus, je saurais le faire.
Mais ça veut dire quoi? Sans aucun... tu dis 2 points
c'est...
en plus,
ça veut alors, dire Alors ça que... veut dire que, par exemple, c'est exactement le discours que j'ai entendu une fois dans une synagogue, je me suis peu rendu dans une synagogue. C'est pas ma religion, mais je suis curieux enfin, de toutes les spiritualités. Et j'entendais, donc peut-être l'une des premières fois, c'était rue de la Victoire, je pense, l'une des premières fois, enfin, entendre un rabbin, et qui avait ce discours en disant que c'est l'apprenant qui apprend à celui qui enseigne.
Certainement.
Voilà.
Ouais. C'est ce que disait Lacan quand il faisait ses séminaires. Il disait « je suis votre analysant ». Enfin, c'est ce qu'il a laissé entendre.
Oui, c'est ce que fait l'expérience de chaque thérapeute. C'est nos
analopatients qui nous apprennent. C'est l'esclave qui apporte son savoir au maître.
Et c'était toute une démarche pédagogique d'amener, comment dire, à l'intelligence et d'amener justement après à un monde, enfin que le jeune va se fabriquer, enfin dans l'avenir. Et il y a des moyens très simples, enfin d'avoir son diplôme. Bon, si on donne les moyens, si on dit aux enseignants demain qu'ils seront mieux payés pour que il y ait plus de diplômes, je peux vous assurer qu'il y a la majorité des enseignants qui sauront le faire.
Ce qui me permet de revenir à mon propos originel.
C'est facile.
Sur l'autorité qui ne peut pas s'exercer s'il n'y a pas de demande. Et l'autorité répond à la demande.
C'est ça. C'est d'ailleurs dans la définition de Kojève, hein, c'est que l'autre peut faire autrement. Mais donc, s'il reconnaît l'autorité, c'est qu'il est capable de faire autrement, mais il fait avec cette autorité, il choisit. Mmh. Hein, c'est ce que tu appelles la demande, je pense.
Même le type de l'autorité de juge, c'est le troisième, je crois, qui est très particulier, ne pas rentrer dans les détails. Et surtout, cette demande de la justice, elle est très très forte.
Le jugement ne joue que si celui qui est jugé accepte le jugement.
Exactement.
Donc, dans l'autorité, il y a, par exemple, en pédagogie, pour le jeune, avoir sa singularité et puis son écoute de l'autre. Et si on arrive à ça, on a l'autorité. Et l'autorité, ça veut dire justement la non-directivité totale pour arriver à ce résultat. Et pourtant, on arrive à un adulte accompli.
Moi, je vais poser une question. Peut-on être autoritaire sans interdire ?
Non.
L'interdiction est nécessaire. Je peux répondre très simplement.
Non, moi je pense qu'on peut être autoritaire sans interdire à un niveau individuel, pas à un niveau collectif.
Ouais.
Que là, il faut vraiment dissocier l'individuel et le collectif. Par exemple, ce qui se passe dans une famille, un père peut faire autorité par son exemple. Mais à un niveau collectif, il faut des interdits.
Mais au sein de la famille, je suis quand même assez convaincue que les interdits sont nécessaires parce que les enfants doivent apprendre ce qui est dangereux, par exemple, ce qu'ils ont le droit de faire dans la société conséquence.
Oui,
c'est-à-dire,
c'est
durant les toutes premières années. L'interdit, c'est quelque chose qui rassure un petit enfant.
Mais c'est de l'éducation, tu vois. Pour moi, c'est de l'éducation. C'est pas au niveau presque de l'autorité telle que je la conçois ou telle que je l'énonce dans notre propos, là, tu vois.
Oui, là où
tu parles d'éducation plus que de... Me semble-t-il. Hein.
À mon avis, c'est quand même... Je parle de l'autorité avec cette connotation du mot auteur. Parce que le père et la mère qui savent montrer l'exemple d'auteur de leur propre vie peuvent transmettre ce goût d'être auteur au petit enfant. Et l'auteur, c'est quelqu'un qui peut barrer son propre œuvre, qui peut la faire publier ou ne pas publier. Et c'est ça que l'enfant va apprendre à faire petit à petit. Parce que si l'enfant ne reçoit pas les interdits, ou pas évidemment plus qu'il le faut, il ne sait pas se référer qu'à ses propres fautes. Et la faute, c'est déjà le début de culpabilité. La culpabilité, c'est la notion extrêmement complexe avec qui on va de toute façon avoir l'affaire plus tard. Donc plus tôt il est géré, mieux ce sera.
Alors, donc, trouver des solutions. Alors, je vais donc une image. Un père, une mère qui se balade avec un jeune enfant le long de la plage. Il est habillé, c'est un dimanche. Il a mis des chaussures toutes neuves. Et donc le papa, par exemple, va dire 10 fois... à la petite fille, au petit garçon. Non, ne marche pas sur le sable. Tes chaussures sont toutes neuves. Tu vas avoir du sable dans tes chaussures, etc. Et l'autorité va être grandissante. Non, etc. Et le père va être autoritaire. Et l'enfant, donc tête baissée, marchera à côté de son papa et de sa maman et suivra les règles d'autorité qui ont été demandées par le père. Et puis, il y a une autre solution. On enlève les chaussures du petit enfant. on lui enlève ses chaussettes et on le fait marcher dans le sable. Et on se munit d'une serviette et on lui essuie ses petits pieds à la fin.
Oh, on ne l'amène pas à la plage.
Alors justement, parce que moi j'avais un exemple qui s'était passé l'été dernier et qui m'avait un peu rendu perplexe. Parce que je me suis demandé si on n'avait pas tendance à prendre les jeunes enfants comme des animaux. C'est-à-dire à imaginer qu'un jeune enfant n'est pas capable de comprendre. Parce qu'il a 2 ans, 3 ans, il faut laisser faire ce qu'il veut, parce qu'il a 2 ans ou 3 ans, et qu'il ne peut pas comprendre, parce qu'il est trop jeune. Alors je me suis demandé si c'était pas le fait à justement assimiler cet enfant à un petit animal qui était incapable de comprendre quoi que ce soit. Je vous donne l'exemple, ça se passait dans un restaurant, arrive une famille avec une petite fille qui a 2 ans et demi. Cette petite fille se met à hurler, à parler, à taper très très fort sur la table, à faire tomber les chaises. Personne ne bouge. Arrive la mère avec l'autre fille, qui a 5 ans. Les deux gamines se mettent à hurler, mais à tel point que plus personne ne s'entendait dans le restaurant. Et les gens se regardaient complètement affolés et on a tous dit « Ah, mais ça suffit !» Et la mère est arrivée vers moi, comme une vipère, en disant que je ne savais pas ce que c'était qu'avoir des enfants. Elle avait 2 ans et demi et l'autre avait je ne sais pas combien, 5 ans, et qu'il ne fallait pas leur interdire. Il fallait les laisser faire.
Alors, moi, j'ai bien aimé ton... Elle est arrivée vers moi comme une vipère. Parce que c'est tout à fait là qu'est la solution. On demande l'avis du père là-dedans.
Excellent.
Okay. Oui, je pense que même que tu peux finir sur l'excellente phrase de Mélanie, oui. Marion.
On va terminer là, parce que là, c'est excellent.
Merci Marion.
Merci à
tous. Merci Mélanie.
Merci Mélanie pour cet excellent jeu de mots. Oui. Bonsoir. Donc, c'était Autre Radio, Autre Culture. Je vous remercie. Bonsoir.
Bonsoir.
Autre culture.